de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle de l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, nous sommes revenus du Festival de Cannes, mais une fois revenus, en a-t-on vraiment fini avec ce festival? Eh bien non, puisque nous allons parler de films que nous avons vus là-bas, des films qui sont déjà sortis sur les écrans français, et puis un autre qui sera sur les écrans le 28 mai, Sophia.
Oui, il s'agira du Wes Anderson, The Phoenician Scheme, et je vous parlerai du prix du scénario des frères Dardenne, Jeune Mère.
Et moi, je vous parlerai de La Venue de l'Avenir, film de Cédric Clapiche qui était hors compétition. Et puis toi, Manu, eh bien, tu n'étais pas allé à Cannes, donc tu as vu plutôt des films
hors Cannes,
pas cannois.
En fait. Voilà, pas cannois du tout. Donc j'ai vu Les Maudites, qui a été primé à Gérard May, d'ailleurs, et puis Oli.
Et puis, c'est Guillaume qui nous parlera de Libertate, un film roumain. Mais on va faire un tout petit débrief pour débuter cette émission concernant le Festival de Cannes. Peut-être parler alors très rapidement du palmarès. Sophia, tu as vu un certain nombre de films, j'en ai vu un certain nombre. Je suis plutôt raccord avec La Palme d'Or, Un simple accident, qui est, bon, me semble-t-il, pas une imposture. Mmh. Je suis très très raccord avec le prix de la mise en scène donné à Kleber Mendoza Filho pour L'Agent secret.
Et moi aussi.
Oui, avec le prix aussi de l'interprète masculin. Parce que moi, c'est le film que j'ai préféré vraiment de toute la compétition. Et puis, toi, tu as vu aussi le prix du scénario, les frères Dardenne, et puis le prix d'interprétation féminine.
Oui, tout à fait. Et j'avais été très marquée par la prestation, par la performance de Nadia Melitti, qui, dans un premier rôle, vraiment crevait l'écran. Mmh.
Et puis, tu as vu aussi le film qui a remporté le prix spécial, celui de Bigan.
Tout à fait. Un film très esthétique, très rêveur, mais après tout, c'est le thème.
Et puis là où je suis moins raccord, c'est pour le Grand Prix, donc ce qui vient juste avant La Palme, parce que tout le monde me disait « oui, La Palme ira à Joachim Trier pour Valeurs sentimentales ». Film que j'ai trouvé peut-être trop distancié, peut-être trop attendu, et en plus qui parle de cinéma, c'est pas vraiment ce que je préfère. En tout cas, c'est le Grand Prix. Et puis, prix du jury, ce sont deux films qu'on n'a pas vus, le film d'Olivier Lax, Sirat, et puis Sound of Falling de Masha Chilinsky. Là, on va pas pouvoir en parler énormément. Voilà ce que nous pouvions dire très rapidement sur la 78e édition de ce Festival de Cannes, qui s'est plutôt bien déroulé pour nous, parce qu'on a vu une moitié de films plutôt intéressante, et puis l'autre moitié un peu plus convenue, je trouvais.
Peut-être, mais avec de très belles découvertes aussi, et pour ma part, pas mal de coups de cœur du côté de la catégorie Un certain regard.
Et nous déroulerons tous ces films à mesure qu'ils sortiront sur les écrans français, bien évidemment. Allez, justement, on va parler du prix du scénario. L'accueil des femmes en détresse est au centre du dernier film des frères Dardenne, donc prix du scénario au Festival de Cannes. Nous parlons de Jeune Mère.
Ben oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Avec Jeune Mère, les frères Dardenne ont présenté leur 10e film en compétition au Festival de Cannes. Un cas unique, depuis 1999 avec Rosetta qui remportait la Palme d'Or. Tous leurs films ont été sélectionnés à Cannes, sans exception. Et leur palmarès, c'était déjà le plus fourni du festival, avant même cette 78e édition cannoise. Deux Palmes d'Or, donc pour Rosetta, film âpre sur une jeune ouvrière prête à tout pour retrouver un emploi. Puis L'Enfant, en 2005, où un jeune couple acculé par la misère en vient à vendre son bébé. S'ajoute un prix du scénario en 2008, un grand prix en 2011, un prix de la mise en scène en 2019, un prix spécial en 2022 et à nouveau un prix du scénario cette année pour Jeune Mère. Ce lien indéfectible avec Cannes témoigne bien de la fidélité de Thierry Frémaux, délégué général du festival, qui dit se considérer comme un éditeur. Et en tant qu'éditeur, il suit ses auteurs. Mais la fidélité se retrouve aussi dans la constance des deux frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui eux n'ont jamais tourné le dos à leur territoire. Jeune Mère est filmée à l'heure, un petit bled à quelques kilomètres de Seringue, ville étendard de leur cinéma hein, dans ce pourtour liégeois noirci par la désindustrialisation. Cette région, ils y sont nés, ils y vivent et continuent d'y tourner. Et au-delà du décor, bah, cette géographie est le creuset de leur thématique phare. Leurs œuvres flirtant avec la frontière du documentaire sont traversées par les fractures économiques et familiales, blessures de rejet, d'abandon, potentielle transmission, mais aussi et surtout par la lutte, celle que mènent leurs personnages pour ne pas sombrer, pour s'en sortir, malgré le déterminisme, qu'il soit socio-économique ou familial.
Demain soir, tu fais la cuisine, ok? Tu vas faire quoi?
Bah, des pâtes avec des aubergines.
D'accord.
Pourquoi tu m'as abandonné?
À quoi ça peut te servir de savoir ça?
J'en ai besoin.
Avec Jeune Mère, les Dardenne signent quand même une première. Hein. Il s'agit en effet de leur tout premier film, Chorale. Ils y suivent les trajectoires entremêlées de cinq jeunes femmes, Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma, toutes résidentes d'une maison maternelle. Un lieu bien réel et surtout un lieu qui fonctionne. Une structure d'accueil où éducatrices, aides maternelles et psychologues accompagnent des adolescentes, enceintes ou déjà mères. Ces jeunes femmes encore à l'orée de l'âge adulte, hein, souvent sans contact avec leurs propres parents ou souffrant d'un contact qui existe encore, eh bien elles trouvent là un cadre pour apprendre à s'occuper de leur bébé et parfois aussi d'elles-mêmes. Chacune d'entre elles vient de situations profondément dysfonctionnelles, hein, parfois de la rue, parfois de familles éclatées, violentes. Mais jamais les Dardenne ne tombent dans l'étalage misérabiliste, hein, pas d'effet de manche dans l'agencement des récits, pas de virtuosité narrative, simplement la volonté d'être au plus près d'une pluralité d'expériences. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la mécanique du film polyphonique, c'est plutôt la justesse du geste et une puissance émotionnelle lucide, en évitant le pathos, un défi permanent.
Quand est-ce qu'on verra ta mère?
Je sais pas.
Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher?
Moi aussi, je pleure.
J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil.
Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne? Dans ta maison maternelle de merde.
Alors comme toujours chez les Dardenne, une mise en scène proximale, dépouillée, discrète. Des plans séquences là, tournés dans la maison, sans éclairage artificiel, sans filtre, sans démonstration. Le spectateur n'est jamais convoqué pour juger ou compatir outre mesure, hein, même si la charge émotionnelle est bien présente. Mais il s'agit plus d'une immersion dans la vie, dans la dureté, mais aussi dans la dignité hein, du quotidien. Leur cinéma ancré dans le réel, hein, s'il faut le rappeler, évoque évidemment celui de Mike Leigh ou Ken Loach. Hein, Loach qui lui aussi fait partie de ce petit club select des doubles palmé à Cannes, hein, au même titre que Francis Ford Coppola d'ailleurs. Mais les Dardenne, bon, ils ont une signature propre, ils se refusent à filmer leurs personnages comme des victimes, ils mettent en avant des individus qui, pour qui la lutte l'emporte, hein, sur la plainte en tout cas. Jeune Mère, c'est la chronique d'une résistance discrète, celle de ses filles, enfants meurtries avec enfants, qui refusent qu'on écrive leur vie à leur place. Et si ce n'est pas ça le geste essentiel du cinéma social, alors quel est-il ?
Si vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse.
Et pour avoir les bateaux.
Notre premier appartement.
On s'en sort.
On s'en sort.
Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidée à pas avoir honte d'être une mère célibataire.
Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Si je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.
Bon, léger bémol, hein, toutefois, quant à certaines interprétations, à force de vouloir éviter l'impudeur et toute forme de pathos, hein, certains premiers rôles paraissent parfois un peu rigides. Bon, ça crée une forme d'inégalité dans les performances, malgré une authenticité et une présence réaliste indéniable. Cette réserve n'entame en rien la force du film, ni la précision du regard porté sur ces jeunes mères combatives. Les Dardenne prolongent avec cohérence et humilité leur ligne exigeante tracée entre l'observation sociale, le geste politique et un cinéma de la dignité.
Jeune Mère des Frères Dardenne est actuellement en salle sur les écrans et parmi les bipalmés, il y a aussi Robin Östlund qui fait mieux que Coppola et Dardenne puisqu'il n'a présenté que deux films en compétition et il a à chaque fois emporté la palme. Et oui.
Trop fort.
Deux époques se juxtaposent dans La Venue de l'Avenir, film de Cédric Clapiche qui n'a jamais été en compétition à Cannes mais qui là était hors compétition.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard.
Je sais pas, on est quand même une famille, puis on se connaît même pas, c'est bizarre, non ?
Avec son précédent long métrage Encore, Cédric Clapiche avait réussi son coup hein, en suivant une danseuse classique blessée qui devait réapprendre à danser, s'adapter à ses nouvelles aptitudes. Un film marqué par une belle introduction, mais qui était plutôt linéaire. Bouleversement avec La Venue de l'Avenir, titre énigmatique de son 15e film projeté donc au Festival de Cannes hors compétition. Le réalisateur français nous plonge dans deux temporalités, la fin du 19e siècle, avec son effervescence artistique où la photographie pourrait anéantir la peinture, c'est ce qu'on dit, et notre époque où les interrogations, le consumérisme mais l'individualisme s'étale. La séquence d'ouverture avec un mannequin prenant la pose devant les nymphéas, c'est très ironique et je me dois de ne rien éventer.
La maison est restée fermée depuis 1944.
Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie.
Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman.
Tu l'as pas vu depuis combien de temps, ta mère ?
20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre ?
Bah, tout se passe à Paris, maintenant.
À notre époque, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soualem et Abraham Vapleur comprendraient vite pour le petit frère de François Civil, sont quatre cousins qui sont désignés pour gérer la succession d'Adèle Vermillard, Suzanne Lindon. Alors, elle habitait une maison maintenant délabrée que la commune voudrait bien raser pour faire le parking de la future zone commerciale. Quand ils mettent les pieds dans cette maison, il reste des objets mais surtout plein de photos et un petit tableau. Alors tout ça est énigmatique, il y a par exemple deux femmes, mais qui est la mère, qui est la fille. Alors nous, spectateurs, eh bien on le sait plus vite que les cousins, car nous voilà à suivre Adèle qui va à Paris à la rencontre de sa mère qu'elle n'a jamais connue. Sur son chemin, elle croise un apprenti peintre et un autre photographe. Ils se lient d'amitié sur les hauteurs de Montmartre. Et là, la reconstitution est pittoresque hein, quand on leur dit « Coupez à travers champs, vous irez plus vite. Paris sent encore la bouse de vache. »
Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici.
Écoute, Paris, c'est Paris. Hein. C'est vieux, c'est cliché, mais...
Je me regarde pas comme ça.
Je suis obligé de te regarder si je te dessine.
Oui ?
Non ! Quoi ?
Je crois que j'ai trouvé un trésor.
C'est-à-dire ?
À bientôt, Gaspard.
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 C'est mon père, c'est qui mon père ?
En nous plongeant dans le passé, en y montrant l'aisance d'une jeune campagnarde, Cédric Clapiche nous joue-t-il la leçon d'un passé dont on a beaucoup à apprendre et d'un présent qui cloche. Il y a peut-être un peu de ça, si ce n'était les relations qui se tissent entre les quatre cousins qui apprennent à se parler, se connaître. Évidemment, Clapiche s'amuse à mettre parmi les 30 héritiers en visio un vieux réac, mais le réalisateur est connu pour être plutôt doux. Alors oui, le Havre du tableau Impression Soleil Levant de Monet n'a rien à voir avec le port industriel de 2025. Clapiche, parce que c'est ce qu'il montre à l'écran, hein. Clapiche s'amuse d'ailleurs à donner les clés de ce tableau, au célèbre tableau. À plusieurs moments, le réalisateur fait débuter une scène dans une époque qui se termine dans une autre, une manière d'imposer le contraste sur un siècle et en quelque sorte de relativiser sans jamais tomber dans le jugement. La Venue de l'Avenir, film assez énigmatique, enfin titre assez énigmatique, est actuellement en salle. Un richissime homme d'affaires ne cesse de défier la mort. Nous allons parler d'un film qui était en compétition, c'est celui de Wes Anderson de Phoenician. Tu dis comment, Sophia ?
Phoenician Scheme.
Wow.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
12e long métrage pour le plus francophile des cinéastes texans. Avec The Phoenician Scheme, Wes Anderson est revenu à Cannes en compétition officielle, d'où il est reparti bredouille. Et avec un accueil critique alors assez partagé. Hein. Certains saluent une œuvre dense, baroque, peut-être la plus drôle, la plus gore et la plus connectée au réel de sa carrière. D'autres dénoncent un film un petit peu hermétique, trop replié sur lui-même, à l'intrigue volontairement obscur. Bon, une chose est sûre, ce récit labyrinthe au casting stellaire, où le cinéaste construit des boîtes pour mieux les ouvrir, ne laisse pas indifférent.
Actuellement, les secouristes s'efforcent de récupérer et d'identifier les restes d'Anatole Jaja Korda, homme d'affaires international, franc-tireur dans les domaines de l'armement et de l'aviation, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il s'agit du 6e accident d'avion officiel de Korda. Il laisse derrière lui 10 enfants. 9 garçons et une religieuse, sa fille Liesel.
Et oui, Jaja Corda, incarné par Benicio del Toro, mania richissime survivant en série à de nombreux accidents d'avion et autres tentatives d'assassinat, escroc insaisissable et sans scrupules, hein, bah, pressent qu'il va quand même bien finir par y passer. Il convoque alors sa fille aînée, Liesel, incarnée par Mia Thrippleton, qu'il n'a pas vue depuis 6 ans et qui, entre-temps, est devenue nonne. Et lui propose de devenir son unique héritière, écartant ses 9 fils. Elle accepte, hein, mais impose un peu ses propres conditions, hein, puisque très pieuse, elle a d'autres projets. Le cours du rivet augmente, hein, cette toute petite pièce mécanique, et ça va mettre en péril le projet pharaonique de Jaja, et le film va entraîner cet anti-héros et sa moniale enfant au cœur d'une longue tractation en Phénicie, d'où le titre, pour une négociation démesurée avec les différents actionnaires de cette utopie industrielle monumentale. C'est là que The Phoenician Scheme déploie sa véritable architecture, une fable comptable et géopolitique détraquée, où capitalisme, foi et révolution se tirent la couverture dans un ballet de manipulation haut en couleurs, et évidemment, chacun prêche pour sa paroisse ou son portefeuille.
Je t'ai nommée unique héritière de ma succession, dont tu pourrais profiter plutôt tôt que tard.
Pourquoi ? Ça fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus.
J'ai mes raisons.
Quelles sont-elles ?
Mes raisons ? Je ne vais pas le dire. Je dis que je ne vais pas le dire. Tractation de Corda sur les infrastructures phéniciennes terrestres et maritimes. Le projet le plus important de mon existence.
Notre objectif : perturber, paralyser, obstruer, faire obstacle à l'initiative de Corda par tous les moyens.
Il y a une chose que tu ne pourras jamais savoir, en tout cas. La vérité.
Je suppose que je suis ému par cette performance absurde.
La mort, chez Wes Anderson, a souvent été un point de départ mélancolique, hein, comme dans The Life Aquatic ou La famille Tenenbaum. Un être cher disparaît, les héros sont hantés par le deuil. Ici, le changement est radical. The Phoenician Scheme ne s'intéresse pas à ceux qui restent, mais à celui qui meurt en boucle, comme un Mickey 17 au sommet de l'échelle. Jaja Corda est un personnage habité par son trépas. À chaque expérience de mort imminente, il est propulsé dans des vignettes monochromes, tableaux bibliques en noir et blanc, où il croise un casting céleste. Bill Murray en dieu barbu, Willem Dafoe en archange mutique, entre autres apparitions 5 étoiles du jugement dernier. Mais s'il faut évoquer la mise en scène, hein, le geste le plus fort reste, en tout cas à mes yeux, le fait que Jaja ne cesse d'être expulsé du cadre. Hein. Il peine à se maintenir dans le champ, il chute, glisse, disparaît. Un corps trop encombrant pour le monde des vivants. Avec The Phoenician Scheme, hein, Anderson pousse non seulement ses thématiques phares, mais aussi son maniérisme esthétique dans leur retranchement. Hein. Les compositions sont toujours millimétrées comme des tableaux, les décors miniatures maximalistes, la palette de couleurs pastel acidulée. Mais cette fois, une tension plus trouble contamine. Hein. La Phénicie fictive, avec ses figures terroristes sorties d'un autre temps, volontairement caricaturale, hein, permet, à la différence de Darjeeling Limited, qui déroulait une Inde de cartes postales, de traiter son orientalisme avec une distance nouvelle, plus connectée à la situation actuelle au Proche-Orient. Ce dernier Anderson est peut-être moins immédiatement attachant que certains de ses précédents. Il est vrai qu'à l'heure où des milliardaires à la Bezos s'affairent à détruire le monde sans limite pour leur enrichissement personnel, Wes Anderson ne vient pas chercher notre empathie vraiment, hein, avec la figure de ce mania immoral. Mais le cinéaste le sait et il offre à cet anti-héros et père défaillant, hein, une possibilité de rédemption. Le film mérite non seulement d'être vu, mais revu pour mieux repérer ses clins d'œil cinéphiles, l'angoisse contemporaine qui affleure derrière ses parfaites symétries et pouvoir se délester du poids d'une intrigue gigogne, un brin complexe.
Je ne rajouterai pas plus, si ce n'est que pour ceux qui aiment Wes Anderson, c'est vraiment un bijou. Pour ceux qui n'aiment pas, ça pourrait les intéresser aussi de voir quelqu'un qui fait du film à la Méliès, mais de manière très ordonnée, de manière méthodique. Alors, on parle souvent de la symétrie. Il y a aussi les panoramiques, les décadrages. Enfin, il y a plein de choses que moi, je trouve vraiment très subtiles et puis plaisantes. Voilà. Donc, The Phoenician Scheme, yes. est en salle actuellement en France, évidemment. Une amitié complexe se noue entre un adolescent et un ancien skateur. Nous parlons de Holly.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Holly n'est pas le nom d'un des personnages du film, mais une figure de base du skateboard, un saut effectué avec la planche. Le mouvement reste la technique fondamentale d'un sport impressionnant visuellement, mais qui s'harmonise difficilement en fait avec la dramaturgie classique du cinéma. Enfin, la captation de l'énergie de la discipline convient mieux, souvent, hein, je dirais, davantage au clip ou au documentaire. Bien sûr, il y a des contre-exemples, hein, je pense au film de Gus Van Sant, Paranoid Park. Voilà. Pour son premier long métrage, Antoine Bess n'esquive pas la thématique thématique centrale, mais l'inscrit dans une topographie singulière, le milieu rural, un cadre atypique finalement pour le skate. Hein. Il prend aussi le risque de délaisser la dimension spectaculaire du sport pour se focaliser sur la gestuelle, la précision des chorégraphies élémentaires et une certaine appréhension philosophique de la pratique. Alors à travers ce prisme, l'intention du cinéaste est pourtant de viser large, d'embrasser on va dire une histoire universelle qui s'adresserait au plus grand nombre et non à une communauté bien précise. Alors ce qui n'est pas sans risque quand on veut s'adresser à tout le monde, l'écueil c'est de ne convaincre personne, de rester à la lisière de son sujet, mais le cinéaste s'en tire plutôt bien, son récit touche par sa simplicité et sa candeur.
Lisa, c'est moi.
T'es en sueur là, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai couru.
Bah moi j'ai fini là. Lui c'est Bertrand. Je voudrais essayer de le faire bosser chez ton père. La galérie, il a envie de s'en sortir.
T'es fermier alors?
Toute la journée je cueille.
Alors Pierre, 13 ans, revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère, harcelé à l'école, se réfugie dans sa passion, donc le skateboard. Hein. Comme tout débutant, il n'est pas très performant, mais une rencontre inattendue va modifier la donne, celle avec Bertrand, un marginal, ancien skater et non squatter, voilà, qui le prend sous son aile. Tous deux, dans une relation de filiation au miroir, vont apprendre à se connaître et à se reconstruire. Rien de neuf sous le soleil du cinéma français contemporain, très attaché aux territoires ruraux hein, de Chaîne Lacasse à Vindieu, pour ne prendre que deux exemples récent. Alors, Oli décrit très bien cette jeunesse délaissée, hein, espérant une vie plus palpitante que celle de leurs parents, en fait, empêtrée dans des galères financières. Alors, une vraie tendresse envers les laissés pour compte et les déclassés émane de ce joli film, hein, trop programmatique pour passionner sur la durée. En effet, Oli coche toutes les cases du film sur la résilience. Alors, le dialogue compliqué entre le père et le fils, la difficulté de surmonter un deuil, les amours d'adolescence, la figure du grand frère de substitution. Ceci dit, les clichés du drame d'initiation s'accumulent sans pour autant altérer la fraîcheur et l'authenticité d'un premier long très soigné visuellement.
Wow! Pierre, tu lui donnais des chaussures de sécurité à sa taille?
Ça fait longtemps que tu skates?
Non, je skate pas.
Ouais, t'es bien ton flip, hein?
Le cabotinage de Théo Christine, révélation de Vermine notamment, dans un rôle taillé sur mesure, passe plutôt bien en rasta punk à chien, alcoolique et ex-junkie. Il compose un personnage alors excessif et cabot, mais qui colle à la réalité du terrain. Face à lui, le jeune Christine Billon, qui est dans la vie un as du skate, hein, surprend par la densité rentrée de son jeu, tout en nuances, très contrastée par rapport à celui de son partenaire. Le duo fonctionne très bien. La générosité du propos également. Et puis voilà, c'est un film que je dirais sympathique. Malgré ses défauts.
Et si on veut voir Théo Christine, on peut aussi regarder Suprême, où il incarnait Joe Star quand même, hein, d'une belle manière. Retour sur la chute de Ceausescu, nous parlons de Libertate.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Quand on pense révolution et grand changement affilié à l'année 1989, on pense forcément à la chute du mur de Berlin. Le cinéma, hein, en sa qualité d'art, nous rappelle qu'il n'y a pas eu que dans ce pays hein, que les choses ont bougé et nous permet aujourd'hui, bah, grâce au film de Tudor Georgiou, de plonger dans une page d'histoire peut-être moins connue du grand public. C'est même avec fraîcheur hein, que l'on accueille Libertate sur nos écrans, car d'autres conflits ou changements de régime ont eu droit à pas mal d'adaptations et celle de la révolution roumaine reste l'un des parents pauvres sur grand écran. Libertate hein, s'intéresse donc à la révolution de décembre 89 qui a renversé le régime communiste et en particulier du chaos qui s'est emparé de la ville de Sibiu en Transylvanie. Alors face au vent du changement, hein, comme le chantait le groupe Scorpions lors de la chute du mur de Berlin la même année, Sibiu a été le théâtre d'une violente attaque contre une unité de police alors que tout vole en éclats dans le pays.
Nous écoutions un extrait de la bande originale de Libertate.
Si, comme je le disais plus tôt, le conflit reste moins connu sur les écrans mondiaux, une grande partie de la société roumaine a été profondément marquée par les événements de décembre 89 qui ont conduit à la chute du communisme. Il faut dire que la Roumanie a été le dernier pays parmi les anciens alliés de l'URSS à connaître ce changement de régime et malheureusement le seul où la transition fut violente. Si on recherche un peu quelques paroles d'experts, ni les historiens ni personne n'a su tirer un verdict vraiment clair sur sur ces événements. Que s'est-il réellement passé, hein ? S'agissait-il d'un soulèvement populaire, d'un coup d'État, d'une scène médiatique ou d'une combinaison d'un peu tout cela ? Ben, dans Libertate, on suit les luttes hein, entre les forces qui, jusqu'à la veille, s'étaient alliées hein, dans la préservation de l'ordre et de la légalité communiste et qui se retrouvent maintenant, ben, par manipulation, inexpérience et par peur, ben, pris dans un engrenage dangereux qui va basculer dans la violence. Alors pour retranscrire ce chaos, Tudor Giurgiu hein, opte pour une fiction proche du documentaire dans sa mise en scène, de sorte à créer une expérience très immersive. Alors à travers toute une galerie hein, de personnages, certains beaux, d'autres affreux, tous confus, hein, le réalisateur arrive à nous poser hein, les bonnes questions sur la manière dont une telle situation peut s'envenimer, comment les valeurs peuvent s'inverser et la lutte déraper. Alors si le ton est bien évidemment extrêmement sérieux, une telle cohue pourrait, hein, dans un autre genre, relever presque de la comédie politique, voire du nonsense militaire, pas forcément très éloigné d'un docteur Follamour. Mais ici, pas d'évasion à la Goodbye Lénine, mais plutôt une réflexion poignante et douloureuse sur le sens du mot « liberté », qui donne son nom au film, la plus chère des valeurs humaines avec l'amour, mais tout aussi compliqué à comprendre et surtout à faire appliquer aux masses. Tudor Giurgiu hein, fait un usage intensif de la caméra mobile, notamment dans la première partie du film. Le calme, une fois revenu, hein, les caméras s'apaisent et le style cinématographique retrouve un cadrage et un rythme un petit peu plus classique. Cette seconde partie laisse place à un décor saisissant, une piscine qui va métaphoriser cet enfermement dans lequel la société roumaine est engluée. Alors sans juger les personnages et leurs actions, et sans prendre de position explicite, Libertate frappe fort hein, avec son style volontairement chaotique sur une révolution qui aurait pu et sûrement dû se passer différemment.
Libertate est en salle depuis le 21 mai. Variation contemporaine sur la hantise, ai-je lu. Nous parlons des maudites.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Les maudites s'ouvrent par une séquence de boîtes de nuit hallucinantes et hallucinées, des flagrations sonores et visuelles où les sens du spectateur sont mis à rude épreuve, pur moment de bravoure immersive dont la signification sera donnée par la suite. Pedro Martín Calero a retenu de son passé de clipper une élégance formelle qui s'appuie sur un soin méticuleux accordé au cadre, à la lumière et au son. La tessiture sonore qui mêle bande originale, musique intradiégétique et sound design est un élément essentiel dans la réussite esthétique et narrative du film. Alors pour son premier long, hein, il s'est adjoint les services d'Isabelle Peña pour l'écriture, collaboratrice régulière de Rodrigo Sorogoyen, qui signe un scénario retors et complexe, tant par la thématique centrale d'une prédation invisible que par la construction du récit alambiqué. Alors Andrea, une jeune étudiante madrilène, est tentée par une présence fantomatique qui n'apparaît que sur les vidéos de son ordi portable ou de son téléphone. Ni elle ni personne ne voit cette silhouette inquiétante à l'œil nu. Après la mort brutale de son petit ami, elle décide d'en savoir plus. Elle découvre que son histoire ressemble étrangement à une autre qui a eu lieu 20 ans plus tôt et qui concernait sa véritable mère, Marie.
Tu fais quoi dans la vie, Camilla ?
Des études de cinéma.
Tu penses être douée ?
T'aurais pu me prévenir qu'elle était folle alliée, la pauvre. T'inquiète, tout va bien, je lui ai rien dit.
Sur quoi ?
Sur le fait que tu l'as filmée en cachette.
Je sens qu'il est là. Andrea, y a personne. C'est le gars qui me suit. C'est lui. J'ai peur qu'il soit ici, maintenant. Là, avec nous.
Camilla ?
Quoi ? On est maudite.
Certains critiques ont souligné l'opportunisme d'un récit post-MeToo à travers le déni de la parole des femmes, sauf que la dimension féministe n'est jamais au service d'un discours didactique. Bien au contraire, Les Maudites est avant tout un pur film de terreur, jouant avec une efficacité démoniaque avec les codes du genre. La première apparition du spectre se révèle vraiment tétanisante. Alors niveau trouillomètre, le film se pose comme un petit classique instantané, se refusant à la moindre trace d'humour, ni de second degré, acceptant pleinement sa nature viscérale. Alors la structure particulière du film, conçue sur des sauts temporels, évoque le cinéma, alors ça c'est curieux, de Kieslowski, référence évidente, puisqu'on y voit l'affiche de Rouge, notamment dans le film, qui serait couplée avec celui, je dirais, de Kiyoshi Kurosawa, pour cette manière unique de faire naître la peur au détour d'un plan, du nombre, d'un détail invisible en apparence. France. Alors la mise en scène avec ses zooms ralentis, ses cadrages sophistiqués et son sens de l'ellipse sert magnifiquement cette histoire de sororité contrariée qui est aussi une réflexion passionnante sur le sens des images et leur signification. Là il y a un petit côté aussi blow-up d'Antonioni réel. Voilà, à travers le portrait réussi de trois jeunes femmes formidablement interprétées par d'excellentes comédiennes, Pedro Martín Calero signe un remarquable film d'épouvante, aussi effrayant qu'émouvant et qui a la bonne idée de ne pas tout expliquer, de laisser un certain nombre de questions un peu en suspens, même si dans le film le mal est clairement identifié. Vraiment un film remarquable.
Et ce film, Les Maudites, est en salle évidemment, comme les autres films dont nous avons parlé, et il clôt une émission quand même consacrée à des films que nous avons plutôt appréciés.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
La semaine prochaine, tu auras un film, Manu.
Et de nouveau un film fantastique qui s'appelle Else.
Et toi, Sophia ?
Hot Milk.
Et puis, Guillaume nous parlera de deux films de Kurosawa la semaine prochaine.
Tout le monde dans cette famille est contre moi.
Eh bien, demande au Père Noël une nouvelle famille.
Je veux pas de nouvelle famille, je veux aucune famille. La famille, c'est chiant.
Ne bouge pas d'ici, je ne veux plus te voir avant demain matin.
Oui, et moi, je ne veux plus te voir avant la fin de ma vie. Et c'est pareil pour tous les autres, d'ailleurs.
J'espère que tu plaisantes.
This is Cinerama.